Pluriel Gay.
Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes ceux et toutes celles qui nous font le plaisir de nous écouter ce soir, à nouveau. Je remercie aussi à Gilles, je voulais le remercier particulièrement. C'est lui qui a réalisé le montage de l'émission de ce soir. Donc, c'est la dernière émission consacrée aux années guépiers que nous avions réalisée avec Thomas Dupuis, l'auteur de l'ouvrage hein, Les années guépiers, donc du même nom. Il s'agit des 4 dernières années d'existence du magazine que nous allons donc aborder ce soir, à tout à l'heure.
Donc l'année 1989 que nous allons entamer maintenant, quels sont les événements marquants donc, de cette année à travers le prisme de Guépier donc.
Alors pour le journal en lui-même, on va dire que c'est quand même un grand anniversaire parce que c'est les 10 ans. Guépier est né en février ou avril 79 et donc en 89 ils fêtent leurs 10 ans et donc ils vont instaurer une nouvelle formule qui est le salon de l'homosocialité qui va perdurer 6 ou 7 ans je crois, qui perdurera d'ailleurs même après la disparition du journal. Donc c'est une espèce de grand forum qui réunit des associations, des spectacles, etc. Donc en cette première année, il y sera beaucoup là-bas. Ils font ça sur 2 jours au Cirque d'hiver. Et il y a notamment, voilà un clin d'œil à l'actualité plus récente, il y a Sylvie Joly qui donne un grand spectacle. On y trouve aussi, alors là les plus jeunes auditeurs, ça leur dira pas grand-chose, mais participent aussi Yvette Horner ou Alissa Pritch. Qui étaient aussi des figures, on dira, un peu du monde gay de l'époque. Même si Guépier a vraiment acquis sa place dans la presse française et dans la communauté, tout n'est pas rose pour autant. Et c'est en 89, par exemple, que, mais ça on le retrouve régulièrement à Paris ou ailleurs, et courant 89, le directeur des bibliothèques de la mairie de Paris en fait supprimer tous les abonnements au journal, mettant en cause le fameux cahier central à caractère pornographique, parce qu'on y voyait des bites voilà, chaque semaine, et que donc voilà. Chaque fois, hein, ça ne dure que quelques temps, mais il y a régulièrement ce genre de mouvement en France ou à l'étranger. Voilà pour le journal. Après 89, le gros événement, mais j'en parlerai peut-être après, c'est la naissance, je vais faire durer le suspense, d'une des principales associations en France. 89, donc on est toujours dans la question de la crise du sida. On en est à mi-année à 9000 cas de sida recensés en France. Un peu plus de la moitié concerne des homos. Majoritairement en Île-de-France. Le gouvernement continue ses actions, donc on a eu les actions de Michel Barzac dans les années précédentes, là on est retourné dans des gouvernements de gauche qui continuent les actions, qui créent l'ANRS, l'Agence Nationale de Recherche contre le Sida. On a dans toutes ces années-là la mise en place de structures de l'État pour soit accompagner, soit faire de la recherche, etc. On voit aussi la création d'un groupe d'études à l'Assemblée nationale. Donc le sujet a vraiment dépassé la simple sphère communautaire pour être une question de public national. De façon anecdotique, on voit en 89 la création d'une première campagne de communication qui montre un séropositif. Ça s'était jamais fait. Jusqu'à présent, c'était des messages très métaphysiques ou autres, ou symboliques. Là, non, mais on montre un séropositif. Et j'en venais à mon teasing de tout à l'heure. On voit naître en 89, la première sortie publique sera pour la Gay Pride parisienne, une association qui est Act Up Paris. Alors, Act Up Paris, c'est en fait la petite sœur, même si juridiquement il n'y a aucun lien, de Act Up New York. Il y a eu Act Up Londres aussi, qui est né en début d'année 89 d'ailleurs. Et donc, Act Up Paris, c'est 3 personnes qui le fondent, Didier Lestrade, Luc Coulavin et Pascal Loubet. Alors, Act Up Paris et Act Up de façon générale est un détonateur dans la communauté. Jusqu'à présent, les 2 grosses associations de lutte contre le sida, qui étaient Arcade Sida et AIDE, étaient plus des associations d'accompagnement. Et surtout, si on prend notamment AIDE, était une association qui se définissait comme une association de lutte contre le sida, mais pas du tout une association homosexuelle. C'est d'ailleurs en 89 que AIDE lance une première enquête à destination spécifique des homosexuels. Act Up, là, c'est différent. Act Up se définit comme une association homosexuelle de lutte contre le sida. Donc, il y a vraiment les deux, publics qui sont visés. Et surtout, ACT UP est une association, et ça on avait totalement perdu ça de vue depuis quelques années, une association politique, de revendication politique. Le credo, c'est de dire au gouvernement, la population est en train de crever, donc prenez vos responsabilités, c'est à vous aussi de vous retrousser les manches pour nous aider. Il y a une menace, il y a un cataclysme, vous ne pouvez pas rester impuissant. Donc c'est vraiment une action de lobbying à destination des gouvernants pour supporter la cause gay et la cause de la lutte contre le sida. Donc ACT UP arrive avec des modes de revendication qui sont totalement nouveaux, des interpellations, des die-in. Le die-in, ce sont tout un ensemble de militants qui miment la mort en se couchant sur le sol et pour montrer en gros la réalité de ce qu'est le sida en fait. Ça, on ne l'avait jamais vu et lors de la, en France en tout cas, c'est lors de la Gay Pride de 89 que ACT UP apparaît avec ses badges en forme de triangle rose inversé, avec leur slogan disant que le sida est l'holocauste de la communauté gay, en faisant un die-in. Régulièrement, ils interpellent le président de l'AFLS, de l'Agence française de lutte contre le sida. Ils vont même jusqu'à lui balancer de l'eau colorée en rouge sur le... Voilà, c'est un mode très rentre-dedans, très revendicatif, très politique. Et ça, on avait totalement perdu l'habitude. Donc, avec ACT UP, mais naît une nouvelle forme de militantisme qui rejoint la lutte contre le sida et de l'activisme politique qu'on avait perdu de vue depuis les années 70, en gros, on va dire. Voilà, donc ça, c'est le gros fait marquant de l'année 89. Sur l'année 89, alors toujours pareil, hein, tous les gouvernements et toutes les autorités se cherchent par rapport au sida. On pourra noter que la municipalité de New York fait fermer deux ciné-porno gays, le Bijou, le Variety, justement en prenant prétexte du maintien de questions d'hygiène, etc., en accusant les lieux de rencontres homosexuelles de propager l'épidémie. Donc on est toujours à un flottement, alors je pense qu'il y en a qui le pensaient sincèrement, mais on est toujours à un jeu subtil entre le sanitaire, les ligues de vertu qui en profitent, etc. Les associations catholiques et familiales, par exemple, font du lobbying auprès de la mairie de Montpellier, dirigée par Georges Fraîche à l'époque, et qui finit par céder la municipalité et fait retirer une nuit tout le distributeur de préservatifs de Montpellier. Voilà, sous prétexte que c'est une incitation à la débauche. Et voilà, donc le jeu est très compliqué tout le temps. Voilà. De façon un peu annexe, on notera aux États-Unis le Marc Christian, qui était l'ancien amant de Rock Hudson, qui, 4 ans après la mort de son amant, finit par avoir gain de cause auprès de la justice et à faire condamner les héritiers officiels de Rock Hudson à lui verser $21 millions en disant, pour préjudice moral, etc., en disant que Rock Hudson ne l'a jamais prévenu de sa séropositivité, qui lui a fait prendre des risques, etc. Et parallèlement à ça, la grande amie de Rock Hudson, qui est Elizabeth Taylor, elle, qui est toujours très engagée dans la lutte contre le sida, fait un nouveau testament qu'elle rend public en disant qu'elle va léguer la majorité de sa fortune aux associations de lutte contre le sida. Et quand elle mourra, je ne sais plus quelle année, mais effectivement, une grosse partie de ses biens vont aller à la recherche contre le sida. Voilà, et puis je terminerai pour la France, toujours pareil, la frontière des questions autour du sida, en rappelant que c'est ces années-là où Barbara va beaucoup témoigner, c'est-à-dire que Barbara, la chanteuse, s'est un peu retirée de la scène, et en fait elle a fait tout un travail d'accompagnement de malades, notamment dans les hôpitaux et les prisons, dont elle parlera dans son tout dernier album qui sortira en 95, je crois, ou 94. Et donc, pour les premières fois, en 89, elle témoigne de ça. Et enfin, pays précurseur, le Danemark. C'est en 89 que le Danemark introduit le mariage pour les couples de même sexe. Donc, il va être suivi après le Danemark par d'autres pays nordiques. C'est des pays très en avance sur les droits des homos. Donc, ils vont introduire le mariage, la possibilité de faire des déclarations fiscales communes. En gros, tous les couples homo vont avoir exactement les mêmes droits que les couples hétéros, à une différence près, pour l'instant, c'est qu'ils n'auront pas le droit d'adopter.
Toutes les filles,
tous les garçons,
toutes les filles,
tous les garçons,
toutes les filles,
tous les garçons.
Eh bien, nous sommes de retour avec Thomas pour la suite de notre série sur les années guépiers. Thomas, donc, qui a fait paraître aux éditions des Ailes sur un tracteur le livre du même nom, Les années guépiers. Donc, que pourrait-on dire sur l'année 1990 ?
On va commencer, par exemple, par une page média où la question de l'homosexualité commence à... Enfin, continue de vraiment occuper, prendre sa place dans les médias. On a La Marche du siècle, qui était une grande émission de société animée par Jean-Marie Cavada sur la 3, sur FR3 à l'époque, qui consacre un numéro à l'homosexualité. On a Bernard Pivot qui reçoit Apostrophe. Alors Apostrophe, c'était la grande émission littéraire sur la 2 de ces années-là, des années 80, on va dire. Donc Bernard Pivot reçoit Hervé Guibert, qui a connu un très grand succès avec « L'ami qui ne m'a pas sauvé la vie ». Qui raconte en fait au travers de quelques livres à partir de celui-là son propre sida, sa propre maladie, etc. et qui va après aussi filmer sa mort en parallèle. Toujours dans les médias grand public, on pourra citer, même si c'est pas totalement lié, mais les grands débuts d'Alex Taylor, le bel Alex Taylor sur Continental, qui était une émission quotidienne sur France 3, et Alex Taylor qui maintenant officie sur Europe 1 après avoir officié sur Radio France pendant des années, n'a jamais caché sa propre homosexualité. Alors c'était pas du tout une émission homosexuelle, mais ça a été un des premiers animateurs out en France. Alors en 89 par exemple, on a en 90 on a Bruno Mazur qui fait son coming out, puis qui dit non finalement je suis bisexuel, etc. Ça a toujours été très compliqué, mais il y en a quand même, voilà, qui assument depuis le début. au niveau de la presse généraliste, on pourra aussi citer des dérives avec Voici qui apparaît dans ces années-là, je crois, et qui fait un grand coup en révélant la séropositivité d'Anthony Perkins, l'acteur américain qui a marqué des générations dans Psychose. Et donc Voici va révéler sa séropositivité. Effectivement, Anthony Perkins décédera dans les années qui suivent, dans les mois qui suivent. Au niveau médias homosexuels, Fréquence Gay, qui est devenue entre-temps Future Génération, qui se cherche depuis des années, depuis sa création, arrête une nouvelle fois ses émissions. Et voilà, petit à petit, véritablement, là, en 90, va commencer à prendre du recul par rapport à la question homosexuelle. Ils ont déjà changé de nom, mais ça va aller crescendo. Après les médias, on va parler de la consommation. De petites anecdotes, alors qui là ont marqué la première sur tous les gays parisiens, c'est IEM, IEM qui ouvre un immense sex shop gay rue Saint-Maur de plus de 1000 mètres carrés sur deux niveaux. C'était un truc immense, un peu froid d'ailleurs. Mais voilà, IEM s'établit, ils en sont à cette époque-là, ils ont trois magasins. Bon, maintenant ils se sont repliés sur les halles, mais c'était aussi une explosion qui permet d'acheter des vidéos, d'acheter un peu de tout. Et en 90, alors là aussi c'est un éternel balancier sur cette question-là, nouvelle interdiction du poppers. Alors qui continue, alors à l'époque on ne pouvait pas l'acheter sur internet quand c'était étranger, mais on a toujours des réseaux de revendeurs voilà, sous le manteau. Voilà. Donc là aussi l'histoire du poppers, quand on voit, c'est arrivé je crois dans les années, au tout début des années 80, mais ça n'a pas arrêté d'être interdit, puis remis sur le marché, puis interdit, voilà. Toujours une histoire très controversée. On va parler un peu du sida en 90, parce qu'on est obligé toujours. Je parlais tout à l'heure d'Hervé Guibert, invité à Apostrophe. Sur 1989, je disais qu'on avait vu une première campagne de pub qui montrait un séropositif. Là, en 90, on a une toute première affiche qui montre un couple d'hommes. Alors je crois que c'est celle-là où effectivement on voyait deux hommes sur un balcon au réveil qui tenaient un bol, voilà, visiblement ils venaient de se lever, de prendre bon, c'était très soft, hein. Mais c'est la première fois quand même qu'on a une affiche qui émane des pouvoirs publics qui montre un couple de garçons. On notera quelques décès de personnalités, alors plus ou moins connues. Reynaldo Arenas, l'auteur. Jean-Marie Combette, qui était l'un des deux fondateurs de la revue Masque. Revue Masque qui est née en 79, qui a duré quand même quelques années, qui elle aussi a marqué, alors qui n'était pas du tout sur l'actu comme était le guépier, qui était plus un truc de réflexion et d'études. Voilà, donc Jean-Marie Combette meurt du sida en 90. De même, alors là par contre, était beaucoup plus connu du milieu que David Girard. Donc David Girard, on en a parlé lors de précédentes émissions, c'était le roi de la nuit parisienne, qui avait des boîtes, des restaurants, des saunas, un gars parti de rien, qui a commencé en tapinant, et qui a monté un véritable empire gay, voilà, et qui est décédé du sida en 90, de même que Michel Guy, qui était, alors il n'était plus au moment de son décès, mais qui avait été secrétaire d'État à la culture de Valéry Giscard d'Estaing. Voilà ce qu'on peut dire à peu près sur le front du sida, peu de changements sinon. Je parlais là aussi en 89, quand on avait fait la chronique des années 89, de ces ligues de vertu qui profitent en fait de la question du sida pour essayer de remettre de l'ordre moral dans la société. Et on pourra noter, c'est la première fois que je vois son nom apparaître, une certaine députée des Yvelines qui s'appelait Christine Boutin, qui en 90 fait voter une taxation à 30% des messageries téléphoniques ou Minitel à caractère pornographique. Donc là, ça va être le cheval de bataille justement des ligues de vertu. Alors, il y en a d'autres qui vont s'y mettre après les années suivantes, mais on va attaquer ces réseaux-là de rencontres. Voilà, il n'y avait pas Grindr à l'époque. Donc on va les attaquer sous l'angle « on ne vous interdit pas, mais par contre, on vous surtaxe ». Donc je crois que les taxes vont monter jusqu'à plus de 50% même. Voilà. Et donc là, en 90, ce Boutin commence à y aller fort. En 89, j'ai parlé de la naissance d'ACT UP à Paris. Donc ACT UP existait aussi dans notre capitale, hein, on l'a dit. Et ACT UP, voilà, continue ses actions. Voilà, le début des années 90, c'est vraiment les grosses années d'ACT UP. Alors en Géorgie, par exemple, on les voit manifester contre les lois anti-sodomie. Donc on dépasse le strict cadre de la lutte contre le sida pour aller vers de la défense des droits homo. À Washington aussi, ACT UP fait acte d'action de lobbying en incitant, et ça va assez marcher, en incitant les gays à boycotter la marque de cigarettes Marlboro parce qu'ils ont découvert que Marlboro avait financé la campagne d'un sénateur homophobe. Donc du coup, voilà, via ACT UP, en fait, les gays se rendent compte qu'ils ont quand même un pouvoir et qu'ils peuvent l'utiliser. Voilà. Alors, d'autres formes, alors là c'était pas ACT UP, mais on voit aussi le monde gay qui recommence à se mobiliser. Là c'est à Montréal, au Québec. Il y a eu une vague de répression des flics contre les homos. Et du coup, là, alors on est plusieurs années après Stonewall, mais les homos font un sit-in devant un commissariat de police et font, c'est la première fois aussi que j'en entends parler, un kissing. C'est-à-dire tous les homos qui s'embrassent dans la rue, etc. Voilà, donc on a de plus en plus de visibilité et de revendications. Je parlais la dernière fois aussi, donc on est dans la continuité, du mariage gay qui avait été autorisé au Danemark en 89. La Suède va déposer un projet de loi pour un partenariat gay, mais par contre, c'est rejeté là-bas. Alors qu'en Californie, par contre, la proposition K, donc une proposition de loi fédérale, entérine la notion de partenariat domestique. On n'est pas du tout, enfin, on n'est pas dans une, comme le PACS ou autre, dans une forme d'union réservée aux gays, mais dans un partenariat domestique étendu à la question gay. La grande affaire qui va défrayer la chronique dans les années 90, c'est celle de la disparition du pasteur Doucet. Alors le pasteur Doucet, c'était un pasteur protestant qui avait fondé dans les années 70, je ne me souviens plus en quelle année exactement, le Centre du Christ Libérateur, qui était en fait une espèce d'église, on dira, qui était adossé aussi, il avait une librairie dans le 17e arrondissement, et c'était en fait un pasteur un peu dévoyé qui mariait des couples homo, qui était très engagé sur les questions de l'homosexualité, du sadomasochisme aussi, de la transidentité, on va dire. Donc c'était un pasteur très progressiste et très visible dans la communauté. Il n'hésitait pas à sortir dans les soirées, etc. Et en 90, au début de l'été, je crois que c'était, un soir, le pasteur Doucet, qui était avec son ami dans leur appartement, reçoivent la visite des RG, qui demandent au pasteur Doucet de le suivre, et on ne retrouvera jamais le pasteur Doucet. On va le chercher pendant plusieurs mois, il y a un comité de soutien qui se met en place, et finalement il sera retrouvé nu et mort dans la forêt de Rambouillet. Et là commence en fait toute une histoire assez étrange où tout le monde va s'y mettre un peu dessus. Alors ça aura du retentissement quand même aussi dans la presse grand public. Mais le guépier va être particulièrement attentif à suivre l'enquête et tout ce qui va se faire, si bien que j'ai eu l'occasion de rencontrer des anciens journalistes de l'époque qui étaient justement, qui couvraient l'affaire. A priori, la disparition du pasteur Doucet, c'est la seule fois où le guépier, la rédaction du guépier, a reçu, on ne va pas dire des injonctions, mais des conseils de l'État pour mettre à sourdine. Voilà. Le pasteur Doucet, donc, sa mort n'a jamais été élucidée. Les RG, a priori, sont impliqués. Il y avait une équipe qui le suivait. Il y avait apparemment une deuxième équipe aussi qui le suivait. Enfin, c'est une affaire qui pue, clairement, qui de temps en temps, on en entend un peu parler, mais qui n'a jamais été résolue. Et voilà. Alors, Jean Edernalier a sorti des pistes, comme il savait le faire à l'époque, qui n'ont jamais été écoutées ni entendues. Je ne sais pas du tout s'il faut leur accorder du crédit ou pas. Mais ça a été voilà, la grande affaire mystérieuse, on va dire, de cette année-là, qui a touché la communauté gay, parce que le pasteur Doucet était quand même un des représentants de la progression des lois, des droits, de la représentation de l'homosexualité dans la société. Le Centre du Christ libérateur essaiera de perdurer quelques années, mais ça ne va pas vraiment survivre à la mort de son fondateur. La librairie sera finalement fermée, et puis petit à petit, l'association va disparaître. Voilà à peu près ce que j'avais à vous raconter sur l'année 90. Si, une dernière chose que j'allais oublier, qui pourtant aurait dû arriver tout de suite, c'est en décembre 90 que naît à Paris la Maison des Homosexualités. Alors la Maison des Homosexualités a été définie dès l'origine comme une expérimentation de centres gays et lesbiens à Paris. À ces époques-là, les associations, à la fois homosexuelles et de lutte contre le sida, militaient pour la création d'un lieu ouvert dans le cadre premier de la lutte contre le sida. C'est-à-dire que le credo, c'était « il faut un lieu d'information où les communautés, alors homo ou pas, puissent en fait venir chercher du conseil, de la documentation, etc. » Donc il y a eu pendant quelques mois des débats entre est-ce qu'il faut un centre homosexuel ou un centre de lutte contre le sida. Et au final, donc, la mairie de Paris est intervenue. À l'époque, l'ancienne ministre Michel Barzac était adjointe au maire de Paris, chargée de toutes ces questions-là. Et en fait, ils ont décidé d'ouvrir un centre plus axé sur la question gay. Donc qui va ouvrir au 45 rue Michel-Lecomte, dans l'ancien appartement de Fabrice Edelman, là où était née d'ailleurs l'association AIDE. Et donc la Maison des Homosexualités, alors bizarrement, n'a jamais eu de statut juridique, c'est-à-dire ça n'a pas été une association, ça a été un truc un peu informel, porté par d'autres associations, soutenu à 100%, il y avait quand même un puis deux salariés soutenus par les pouvoirs publics, parce qu'en fait c'était intégralement financé par l'Agence française de lutte contre le sida, mais c'était une maison des associations un peu, théoriquement ouverte au public, il y avait des salariés pour ça, sauf que c'était dans 45 mètres carrés, dans une arrière-cour, donc en fait le public ne connaissait pas vraiment, c'était pas assez ouvert au public, et du coup c'est resté surtout un centre pour les associations. La formule va durer, en fait, jusqu'en 93, parce que dès le départ, c'était une expérimentation. En 93, la FLS, donc Agence française de lutte contre le sida, dira, ben voilà, l'expérimentation arrive à son terme, et donc c'est ce qui donnera naissance au centre gay et lesbien. À noter que la Maison des Homosexualités, qui avait d'ailleurs sa propre publication, qui s'appelait le Gay Bulletin, va aussi essaimer. Il va y avoir une Maison des Homosexualités ouverte à Tours. Il va y avoir plusieurs Maisons des Homosexualités petit à petit en France, qui, à leur tour, deviendront aussi des centres gays et lesbiens.
Nous sommes les gays, vendangeurs prêts à reprendre le labeur après la joie de ces agapes. Nous sommes les gays, travailler ne nous fait pas peur quand on ne nous tient pas la grappe. C'est pourquoi léger, nous repartons vendanger après manger lorsque le patron nous fait signe. Quand on a bien déjeuné, quel plaisir d'aller dénicher la grappe sous la feuille de vigne. La belle grappe buveuse, gorgée de soleil généreux. Quand on a bien déjeuné, quel plaisir d'aller dénicher la grappe sous la feuille de vigne. Pégué vendangeurs, chantons tous en cœur. Pégué vendangeurs, chantons tous en cœur. Chantons tous en cœur notre bonheur d'être gay et vendangeurs. Chantons en cœur. Tous en cœur, à quel bonheur, à quel bonheur.
cacher la grappe sous la feuille de vigne. Sous la feuille de vigne. Sous la feuille de vigne.
Pluriel gay.
Alors, tout d'abord, dans une émission précédente, je parlais des maisons des homosexualités. Et je disais qu'il y en avait qui avaient clos un peu partout. Je citais Tours. Et comme on me l'a fait remarquer, j'ai oublié de dire, et on va se raccrocher aux branches, que c'est en 1991 qu'est créée une maison des homosexualités à Lyon. Voilà. Je ne sais pas si elle a duré très longtemps, mais il y en a eu une officiellement à Lyon. Est-ce qu'elle était affiliée à la RIS ou pas? Je ne sais pas trop.
Non, alors là, je pense que non, ouais. Elle n'était pas. Non, non. D'accord. Harris a toujours été indépendant jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, où ils ont intégré le centre LGBTI, mais... Ouais.
Alors, sinon, l'année 91 va commencer. Alors, à Paris, le 10 janvier, la nouvelle, c'est l'incendie du King Knight, qui était un des deux saunas qui appartenait jusqu'à sa mort à David Girard, qui était ouvert toute la nuit. Et alors, dans toute l'histoire, on voit régulièrement des incendies de sauna gay. Là, il y a deux personnes qui vont mourir. Et c'est un peu le symbole de la fin des années David Girard, je dirais. Voilà, même si, du coup, le petit frère qui était le King Jour ou le King tout court, le King Sauna, existe toujours à Paris dans le 17e arrondissement. On a parlé de deux morts, on va faire la liaison comme ça. On a parlé de deux morts donc au King Sauna. On pourra noter trois décès. Alors on revient sur la question du sida. Trois décès en 91. Moins connu, on va commencer par lui, Jacques Morali, qui était le producteur français à noter des Village People. Plus connu, Brad Davis, l'acteur de Midnight Express et de Querelle. De Fassbinder, et surtout celui dont on parlera le plus, c'est Freddie Mercury, bien sûr, le chanteur des Queen. Donc tous trois vont mourir du sida en 91. Le sida, on est toujours dans les années noires. On compte en 91 plus de 20 000 cas de sida en France. Voilà, alors en 91, c'est la troisième année de la journée internationale de lutte contre le sida, le 1er décembre. Lady Di, la princesse de Galles, en profite. C'est la première fois qu'elle va publiquement à une conférence sur la question du sida lors du 1er décembre. Ça lui sera amèrement reproché, mais elle continuera, n'empêche, elle fera partie des quelques personnalités engagées véritablement, je crois, quand même, dans ces questions-là de lutte contre le sida. Pour terminer sur la question, en 91, la Sécu autorise, ou le ministère de la Santé autorise les médecins de ville et les médecins généralistes à renouveler les ordonnances d'AZT. Jusqu'à présent, seules les pharmacies des hôpitaux pouvaient délivrer l'AZT, seuls les médecins spécialisés pouvaient délivrer des ordonnances d'AZT. Là, en fait, ça atteint la médecine de ville, ce qui est le signe quand même que la question du sida rentre de plus en plus comme une maladie intégrée, on va dire, dans la société. On a parlé en 90 de l'apparition de Madame Boutin qui voulait taxer le Minitel rose, on va dire. Elle est suivie, en fait, par le gouvernement. C'est-à-dire Michel Charasse, qui était ministre du budget à l'époque, appuie la proposition de loi en 91 et lui aussi veut surtaxer les services télématiques, Minitel, téléphone, de rencontres. Voilà. Dans le même temps, une commission paritaire aussi demande la surtaxation de la presse érotique. Après les définitions en plus où commence et où finit la presse érotique, ça c'est à définir, mais demande à ce qu'elle soit désormais taxée à 18,6% de TVA comme la presse pornographique, alors que jusqu'à présent elle bénéficiait comme la presse généraliste d'une TVA réduite à 2,1%, une TVA spécifique à la presse. Au niveau des gouvernements en France, on notera une avancée, alors symbolique sans doute, mais importante. En avril, le secrétaire d'État aux anciens combattants, André Méric, émet une circulaire qui attribue désormais aux déportés pour faits d'homosexualité les mêmes droits à réparation qu'aux déportés autres, je dirais. Donc ça, c'est un grand travail qui a été fait depuis quelques années par des associations en vue de la reconnaissance, en fait, de la question de la déportation homosexuelle. Alors ça a été très difficile durant toutes les premières années quand les associations essayaient d'aller déposer des gerbes sur des monuments aux morts ou lors de commémorations. Ils étaient souvent mis dehors par les associations de déportés. Bon, il faut savoir qu'en plus en France, officiellement, il n'y avait pas de déportation pour fait d'homosexualité. Tout était classé dans les déportations d'ordre politique. Sur des questions politiques, voilà. Et ça, il y a eu tout un travail, en fait, dans les années 80, des associations pour faire reconnaître, en fait, cette spécificité-là. Et qui commence donc, qui est enfin officiellement reconnue. Une avancée au gouvernement, alors des reculs aussi. Je citerai le Premier ministre de l'époque, alors, qui n'a pas duré longtemps, qui était une femme qui s'appelait Edith Cresson, qui a déclaré « Un homme qui ne s'intéresse pas aux femmes est en quelque sorte un peu estropié ». Et comme en plus elle se prenait pour Napoléon, elle en a profité pour expliquer que 25% des anglo-saxons étaient sans doute homosexuels. Bon, en même temps, dans le même temps, les Japonais étaient des fourmis, et voilà, elle n'est pas restée très longtemps à Matignon. Voilà, l'année 91, c'est toujours aussi il y a la question de la guerre du Golfe qui voit se mobiliser les gays et les lesbiennes aux États-Unis. Les gays et les lesbiennes vont se constituer, vont manifester contre la guerre du Golfe. Et par contre, paradoxalement, l'armée américaine accepte enfin que des combattants gays intègrent les rangs de l'armée pour aller se battre. Alors que la question était totalement taboue dans l'armée américaine. Puis ensuite, il y a eu, dans les années qui ont suivi, la loi du silence, on dira. Mais pour la guerre du Golfe, il y a des directives qui autorisent les gays qui veulent aller se faire massacrer en Irak à rejoindre les troupes des gentils GI. Voilà, et puis pour finir... Juste une anecdote pour la Saint-Valentin. La mairie de San Francisco accepte de délivrer 400 certificats de concubinage homosexuel. Voilà, donc on est dans ces années où la question du couple homosexuel commence à émerger, où certains pays nordiques, on l'a vu précédemment, accordent des droits au mariage. En France aussi, on va avoir, dans les années qui vont suivre, des premiers certificats de concubinage homosexuel, mais ça, Guépier sera plus là pour le raconter. En fait, c'est le maire de... J'en profite pour faire une parenthèse. C'est le maire de Saint-Nazaire, Joël Batteux, qui va pour la première fois établir des certificats de concubinage qui sera suivi après par les maires de Strasbourg, les 6 maires d'arrondissement de gauche à Paris, etc. Et voilà, petit à petit, le mouvement vers la reconnaissance de l'union homosexuelle va prendre son essor. Et là, on est vraiment dans les effets secondaires, on dira, de la crise du sida, qui a montré au grand public qu'il existait une réalité du couple homosexuel qui, quand justement il y avait un drame qui survenait, s'accompagnait de nouveaux drames. Quand, si le bail d'un couple était au nom du défunt, on a vu des dizaines de cas de familles qui arrivaient, qui mettaient le partenaire du couple dehors, qui n'avaient aucun droit sur rien. Et donc, petit à petit, ces histoires-là ont commencé à émerger, et le grand public, et donc du coup les politiques, ont commencé à prendre conscience de cette réalité-là, et donc du besoin de légiférer sur la question. Ça mettra quelques années, mais c'est vraiment impulsé dans ce tournant des années 90.
It's a brand new bright Obama day. What a time to be
black, a girl,
or gay.
No, nothing could go wrong. So join us in this song of happy days for the gays. Nothing can go wrong.
Look, nobody's watching. It's time to spread some hate and put it in the Constitution.
Now, how?
Proposition 8.
Proposition 8.
Great!
People, listen to our plea. They'll teach kids about
sodomy.
Sodomy.
That wasn't right. That's a lie.
But it works, so we don't care.
Now you wish we'd all shut up,
but make our clothes and fix our hair.
And our love's not a sin.
Well, the Bible says it so.
Well, the Bible says a lot of things.
you know?
Jesus Christ!
Hey, how's it going?
Jesus, doesn't the Bible say these people are an abomination?
Abomination?
Yeah, but you know, it says the exact same thing about this shrimp cocktail.
Shrimp cocktail?
Leviticus says shellfish is an abomination.
Abomination!
What else does the Bible say, Jesus?
The Bible says a lot of interesting things. Like you can stone your wife or sell your daughter into slavery.
Well, we ignore those verses.
Well then, friend, it seems to me you pick and choose.
We pick and choose.
Well, please choose love instead of hate. Besides, your nation was built on separation of church and state.
See you later, sinners.
Bye, Jesus. I love you, Jesus.
You know, here's another thought to wrap things up. Oh, every time a gay or lesbian finds love at the parade, there's money to be made.
He's right!
It's time to groom, say, paint that wedding hall, and lavender's the shade. There's money to be made.
He has a point!
Think of all the carriages and four white horses. There's millions lost from all your disapproving.
Well, that's not good.
Think of all the lawyers for the gay divorces. Think of the tattoo removing.
We get it now.
We've been such fools. I can see America's calling me. Yes, gay marriages will save the
Pluriel Gay.
Thomas Dupuis, nous sommes donc de retour avec toi pour la dernière année des années Guépier, l'année 1992, donc qui a vu la fin du magazine Guépier.
Oui, alors je terminerai sur l'histoire du Guépier en fin d'émission. Avant ça, l'année 92 est ouverte par le décès d'Hervé Guibert. Alors Hervé Guibert est mort toute fin décembre 91, mais du coup c'est le tout premier numéro du Guépier qui en parle. Donc Hervé Guibert qui a été une figure de la fin des années 80 au travers de ses livres, alors que j'invite d'ailleurs à lire ou relire, donc à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, le protocole compassionnel, l'homme au chapeau rouge et Cito Mégalovirus qui sont ses quatre derniers ouvrages. Et donc Hervé Guibert a été la personnification du tournant des années 90 du sida en France. Et en plus, durant toutes ces dernières années, ces derniers mois, on va dire, il s'est filmé avec sa maladie. C'est-à-dire qu'il installait sa caméra, il se filmait malade, on le voit chez le médecin, etc. Et donc du coup, ça a donné un documentaire, La pudeur ou l'impudeur. Et quelques jours après le décès d'Hervé Guibert, TF1 décide de programmer La pudeur et l'impudeur. Alors finalement, il va y avoir des atermoiements. Pendant 2-3 semaines, ils vont se chercher. Et finalement, TF1, donc, qui est quand même la chaîne qu'on connaît, finit par diffuser La pudeur et l'impudeur fin janvier 92, un soir, certes à 23h, etc. Mais c'était quand même un sacré pari. Je pense pas qu'on reverrait ce genre d'œuvre aujourd'hui sur de la télé généraliste. Voilà, donc ça c'était important de le noter. Autre victime du sida, je vais en citer quelques-unes. Anthony Perkins, on en a parlé lors d'une précédente émission qui avait, dans la séropositivité et du coup l'homosexualité aussi, avait été outé par le journal Voici en 90, donc il décède en 92. On notera aussi la disparition de Jean-Pierre Jocker, qui était l'un des deux cofondateurs de la revue Masque. Jean-Marie Combette, l'autre cofondateur, étant décédé quelques mois auparavant. On notera aussi le décès de Dominique Lefebvre, qui avait été à l'origine, je crois, du groupe Pined au sein de Aide, qui allait sur les lieux de rencontre pour faire de la prévention. Celui de Jean-Florian Mettetal, qui était un ancien de Aide, qui ensuite est parti à Arcade Sida et qui avait fondé, qui était toujours, je crois, rédacteur en chef du journal du Sida. Et enfin, dernière disparition que je citerai, c'est celle de Michael Pollack, qui était un sociologue, et c'était lui qui avait le premier lancé, dans le guépier d'ailleurs, au milieu des années 80, une enquête sur la sexualité des gays et du sida. C'est la même enquête, en fait, qui est reprise et réactualisée, bien sûr, tous les 2 ou 3 ans maintenant, par, je ne sais pas, ça doit être l'INVS qui fait ça aujourd'hui. Voilà, donc Michael Pollack qui décède en 92. Une grande avancée en 92, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, déclassifie l'homosexualité qui jusqu'à présent était toujours classée dans les maladies mentales. Alors à noter quand même, pour rappel, ça j'ai dû le dire il y a de nombreux mois maintenant, que dès 81, le ministre de la Santé, Jack Ralite je crois, a dit que la France arrêtait de suivre le classement de l'OMS qui classait donc l'homosexualité parmi les maladies mentales, mais il faudra donc attendre 11 ans encore pour que ce soit déclassifié au niveau mondial. Sur la question du sida, on assiste pendant toute l'année 92, enfin une bonne partie, sur des débats sur la place publique, alors qui avait déjà commencé hein, les années précédentes, mais sur la notion de dépistage obligatoire. Dépistage obligatoire de groupes à risque, voire de toute la population. Au final, les associations, qui n'étaient pas toutes d'ailleurs d'accord entre elles, sont allés demander qu'on arrête, enfin qu'il n'y ait pas d'expérimentation là-dessus, et effectivement il n'y aura pas de dépistage obligatoire. Les autorités vont continuer leurs actions de lutte contre le sida, j'en noterai 2. Au nouveau gouvernement, alors j'ai parlé sur l'année 91 du premier ministre, enfin de la première ministre Edith Cresson, dont le mandat à Matignon va durer que 10 ou 11 mois. Elle est remplacée en 92 par Pierre Bérégovoy, et qui a une secrétaire d'État à la consommation, qui était Véronique Neyertz, qui était une personnalité très médiatique, et qui décide, alors pourtant ce n'était pas dans son champ d'activité, mais voilà, ça se trouve comme ça, c'est elle qui fait mettre en place des distributeurs de capotes dans les lycées en France. Parallèlement à ça, Christophe de Chavannes, l'animateur de télé qui faisait des émissions à l'époque regardables, fait une grande campagne de pub sur le préservatif et en fait instaure la formule de préservatif à 1 franc, parce qu'il fallait savoir que jusqu'à présent quand même les préservatifs coûtaient quand même cher et que donc c'était un frein à la prévention. Les propositions de loi sur le Minitel continuent. On essaie de taxer, on essaie de censurer. Donc là, en fait, ça va être un des derniers combats du guépier de dénoncer cette censure au Minitel rose. Le Minitel rose qui, finalement, perdurera jusqu'à la fin du Minitel. On notera enfin 2-3 choses avant que je parle de la fin du guépier. On notera la sortie au cinéma des Nuits Fauves, le film de Cyril Collard, qui aura un grand retentissement parce que Cyril Collard, alors qu'il avait déjà sorti quelques années auparavant un roman qui s'appelait Les Nuits Fauves, donc après il l'adapte au cinéma, et en fait il décédera quelques temps après la sortie, et juste avant d'avoir le César du meilleur film. Donc le César lui est attribué quelques jour, je crois même, après son décès, et donc ça avait beaucoup marqué les esprits. D'autant plus que le film, du coup, qui était grand public, aborde des aspects de l'homosexualité sans phare, où on voit la réalité, une réalité en tout cas, de la baise homosexuelle, et donc il prenait pas de gants avec ça, donc ça en fera beaucoup parler. On peut noter au Vatican un certain Monseigneur Ratzinger, qui deviendra le pape, puis le pape émérite Benoît XVI, qui à l'époque était secrétaire général de la Congrégation de la foi, qui édicte en 1992 une directive contre l'homosexualité. Son accession au premier poste du Vatican ne le fera pas changer d'idée. Voilà, on notera enfin, ça fait le lien avec ce que je disais sur l'année 91, c'est-à-dire l'émergence de la question du couple homosexuel et de la nécessité de légiférer pour assurer une sécurité aux couples homosexuels. Et en fait, en 92, on a un groupe de trois députés ou sénateurs PS, dont Jean-Pierre Michel, qui a été à l'origine de plusieurs lois, qui travaille sur un projet de contrat d'union civile, le CUC. Et alors après, dans les années qui suivront, il y aura aussi le CVS, le CUS, jusqu'au PACS, voilà, qui devra attendre 97, 98, 99 pour émerger. Voilà, et donc, effectivement, comme tu le disais, 92, c'est l'année de l'arrêt du guépier. Alors, le guépier inaugure tout début mars une nouvelle formule où ils reviennent un peu aux origines dans le format, c'est-à-dire on revient sur du papier journal en grand format, on reste hebdomadaire. Et puis finalement, le journal s'éteindra au bout de 541 numéros. Le dernier, donc, c'est le 22 octobre. Alors, ça n'a pas été un arrêt brutal. Ça n'a pas été non plus, comme on a pu le connaître récemment sur Tétu, un arrêt pour des questions financières, avec liquidation judiciaire, etc. C'est une décision mûrement réfléchie qui a été annoncée 4 ou 5 numéros avant. Donc, ça a dû être annoncé à la rentrée, en fait, comme quoi ils allaient arrêter. Donc, ça a laissé le temps qu'il y ait des témoignages sur les derniers numéros, etc. Et qu'il y ait des albums un peu, enfin, des numéros un peu de synthèse, on dira, sur les toutes dernières parutions. En fait, la décision, là, émane plus ou moins de Gérard Vapereau, le gérant des éditions du Triangle Rose, qui décide, en fait, d'arrêter le guépier. Le guépier qui était assis sur un tas d'argent, hein, parce que en fait le guépier était financé par justement le Minitel Rose, et Gérard Vapereau commençait a priori à sentir quand même la fin de ce modèle économique là. Notamment, on voyait toutes les volontés de censure de l'ordre public, en fait, pour censurer ces messageries, etc., qui faisaient vivre la presse homosexuelle de l'époque. Il y avait aussi très certainement un essoufflement, l'envie de passer à autre chose. Le journal commençait à ne plus représenter quand même ce qu'il avait pu représenter durant toutes les années 80. Et donc voilà, Gérard Vapereau a décidé d'arrêter la publication. Alors, il n'était pas seul, hein, bien sûr. Et donc en octobre, le journal se termine. Les éditions du Triangle Rose, pour autant, vont continuer à exister. Ils vont continuer à sortir chaque année le guide touristique Guépier. Il va y avoir, 2 ans après, et ça va durer presque 2 ans, la lettre d'information du Guépier, alors qui sera dirigée par Didier Lestrade. Mais là, le modèle n'est plus du tout le même. C'est-à-dire que là, ce ne sont plus que des news, en fait. C'est mensuel, qui est sur 8 à 16 pages. Donc vraiment de l'information très focalisée. Il n'y a plus du tout de sujet de reportage, de sujet de consommation, etc. C'est beaucoup plus un journal militant ou associatif, on dira. Et puis surtout, la grosse différence, c'est que ce n'est plus du tout, la lettre de Guépier n'est plus du tout vendue en kiosque, ce n'est plus que sur abonnement. Les éditions du Triangle Rose vont aussi continuer à produire pendant encore 3 ans, je crois, 2 ou 3 ans, le Salon de l'Homosocialité, qui était le grand rendez-vous en fait annuel, et vont éditer pendant quelques années, alors ça, le projet est arrivé très tôt, Projet X, qui était une revue très chère, d'ailleurs qui ne se vendait qu'en sex shop, sur les sexualités hard et fétichistes, voilà. Puis ensuite, petit à petit, la société va vraiment disparaître. Les locaux qui étaient rue Sedaine, qui ont après appartenu à Act Up, petit à petit, alors il restait au rez-de-chaussée toutes les archives entreposées qui ont été pour partie pillées, puis qui ont été reprises. Et alors je ne sais plus en quelle année, en fait, la marque Guépier a été rachetée par Gayvox. Gayvox qui a un site internet et des applications mobiles, etc. et qui détient encore à ce jour la marque Guépier. Une grosse partie des archives qui sont d'ailleurs stockées dans un lieu qui est loué par Gayvox de façon à ne pas perdre tout ce fonds-là, même si aujourd'hui il ne peut pas être exploité. Mais voilà, il y a la volonté quand même de ne pas tout faire disparaître. Il y a eu une tentative il y a 4 ans ou 5 ans, je ne sais pas, justement, Gay Vox a essayé de refaire un guépier. Mais ça n'a pas marché, en fait. Il y a eu un numéro 0 qui est sorti, pas du tout sur le marché, mais en interne. Et finalement, ils ont décidé de ne pas le sortir parce que voilà, le résultat ne leur convenait pas. Et puis, le modèle économique n'était pas là. Et donc, finalement, à ce jour, le guépier voilà, reste un mythe, un symbole, une grande aventure, voilà, mais reste de l'ordre du passé et un des principaux représentants, on dira aujourd'hui encore visible, des années 80, qui ont vu donc toute l'émergence d'énormément de structures pour les gays, de la visibilité grandissante des gays sur la scène nationale grand public. Et voilà, ça a été des années véritablement de transformation de la question homosexuelle dans la société, appuyée largement sur le sida. Mais le sida, quelque part, a permis aussi que le grand public se rende compte de certaines choses, de certaines réalités. Et au final, je pense, malgré tout, ça a aidé à, peut-être par compassion au départ ou autre, mais à être plus ouvert peut-être à certaines questions comme l'homosexualité en général, comme le couple homosexuel, etc.
Voilà, c'était donc la dernière émission consacrée donc aux années guépiers. Je vais y arriver. Donc mon collègue qui vient d'arriver, on était en train de discuter, donc du coup je suis un petit peu perturbé. Mais avant de vous quitter, pour vous retrouver la semaine prochaine, quitter mes chers auditeurs et auditrices, je voulais simplement signaler que demain, c'est la journée internationale du souvenir trans, demain le 17 novembre, et que à cette occasion, parmi les événements dont on pourrait parler, le principal en tout cas, c'est un événement organisé par Chrysalide. L'association d'autosupport de personnes transgenres qui organise une projection donc à l'Université Lyon 2, c'est la salle DR19 à partir de 18h, hein, Université Lyon 2 sur le campus Berge du Rhône à Lyon. Une projection d'un film américain qui s'appelle Tangerine de Sean Baker, un film de 2015 qui a reçu le premier prix du jury au Festival du cinéma de Deauville, également à Sundance. Et puis la soirée se prolongera à partir de 20h au Live Station, en collaboration avec l'association que nous connaissons bien, Les Invisibles de Stonewall. Donc suite de la soirée avec donc un ciné-débat, comme on dit, sur Tangerine, donc qui aura été diffusé au préalable à l'Université Lyon 2. Plus toute une soirée festive avec des activités ludiques, avec des informations sur la transidentité, des interventions diverses et variées, puis aussi une soirée qui continuera en musique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour ce soir. Je remercie encore une fois Thomas d'avoir joué le jeu des années guépiers, de nous avoir fait revivre cette période au cours de ces derniers mois. Je rappelle que l'ouvrage de Thomas a été édité donc les années guépiers aux éditions des Ailes sur un tracteur. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne sainte soirée et retour donc de l'émission la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. This is good.